turn to Romans chapter 6. I don't know if my DVD Pirgi thumbs up. Okay. All right.
Somebody
graciously gave me a gift, and it was a DVD.
Il y a quelqu'un ici qui m'a offert un don d'un DVD qui s'appelle le Planeur Privilégié. C'est une étude scientifique sur l'unicité ou comment l'univers est tellement unique en tant que tel que nous le connaissons. Et en le regardant l'autre soir, j'ai été très touchée. Et quoique ça ne parle pas de Dieu, c'est purement scientifique. Mais en comprenant l'unicité, comment notre planète est si unique, que l'eau n'est pas la glace ni la vapeur, mais que l'eau existe sur cette planète, afin que la vie, comme nous la connaissons, puisse être ici. C'est au cœur même de ce message. Et j'ai une image ici que j'aimerais vous montrer de ce DVD.
Okay. This is the Voyager spacecraft. On it is high-tech.
C'est un satellite.
Camera. This is back in the 70s.
Et ça a été filmé par une.
Traveling at high speed.
Donc ce satellite voyage à vitesse lumière, pas lumière mais très grande vitesse. Et ce satellite a pris une photo de la Terre d'à des milliards de kilomètres. Vous voyez ce point de lumière là, tout milieu? C'est une planète.
That's us.
Et ça, c'était nous, c'était la Terre.
Okay, give God a hand. Wow, yeah, there we are.
C'est quand même un tout petit point dans la planète, dans l'univers, un tout petit point de lumière dans l'univers.
4 billion miles away.
Des milliards de kilomètres de distance.
And the scientists say
les scientifiques disent que les planètes et les études qu'ils ont faites. Et ce sont des études approfondies. Ils disent que cette planète est très privilégiée. Et nous, bien entendu, nous le savons, pour des tas de raisons. D'un point de vue scientifique, c'est très inhabituel pour nous d'avoir les propriétés que nous avons pour cette planète. Nous avons une large lune qui aide avec la rotation de gravité. On a une telle distance des étoiles. Si on était plus près, l'eau s'évaporiserait. Si on était plus loin, l'eau se gèlerait. Il y a 12 éléments fondamentaux qui ont été conclus de cette perspective unique de notre planète. Et je me disais que non seulement sommes-nous privilégiés en tant que planète, mais nous sommes privilégiés en tant que phénomène, en tant que peuple. Dans Genèse 1, 27, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et Dieu, au début de l'Écriture, au chapitre 1, lorsqu'il a mis tout ça en ordre et qu'il a fait de notre planète ce qu'elle est habitable et qu'il a planté, un jardin ici, il nous a créés. Et le diable, dans Luc 10, 18, est tombé comme un éclair sur la planète et que les Écritures nous révèlent quelque chose qu'on ne pourrait jamais savoir par nous-mêmes. C'est que Dieu a fait de nous, Dieu nous a créés et Dieu nous a placés ici. Et dans nos cœurs, en tant que croyants nés de nouveau, avec le Saint-Esprit dans nos cœurs, et la Bible qui est un livre ouvert pour nous, on peut lire des privilèges que nous avons. C'est incroyable. Ça attire l'adoration de nous. Jésus a dit, ces choses, je vous les ai dites, afin que ma joie, que vous ayez ma joie, verset 11, afin que votre joie soit parfaite. Le psaume 30, verset 5, il y a des pleurs la nuit, mais le matin vient la joie.
Quand Dieu a créé l'univers dans cette planète de nous,
quand Dieu a créé l'univers et que notre planète est devenue habitable, il est dit dans Job que les anges chantaient avec joie. Ils ont vu ce que Dieu avait fait. Et je ne peux que les imaginer à s'envoler jusqu'à ce point. Cette galaxie qui s'appelle la Voie lactée, qui est une des choses encore merveilleuses selon notre planète. Et notre planète n'est pas mais la façon dont notre galaxie où notre planète est placée dans la galaxie, c'est une sorte d'ouverture vers l'univers. Donc ce petit documentaire que j'ai vu sur ces DVD a vraiment réveillé en moi cette manière de penser où on peut dire la vie est une continuation éternelle d'émerveillement, de la manière dont Dieu a voulu que ce soit une joie pour l'homme. Dans Matthieu 2, 10, lorsque Jésus est né à Bethléem, et ça c'était incroyable, qu'à Bethléem, les anges ont chanté avec joie, et avec joie ils proclamaient que Dieu est sur cette terre, cette petite planète, le créateur de l'univers, d'éternel en éternité, est devenu homme. Dieu est ici. La prochaine fois qu'on verra cette joie, c'est dans Luc 10, où Jésus s'est réjoui en esprit. Il a dit, oh, je te remercie, Père, Seigneur de la terre et du ciel. Et on pourrait dire, tu as caché ces choses des prudents et des... Mais tu l'as révélé à des bébés. Et autant ça a été juste à tes yeux, Seigneur, de révéler ces choses à certains et de les cacher des sages. Et après, dans Matthieu 28, verset 8, on voit que lorsque le tombeau s'est ouvert ou que le tombeau était vide, ils se sont réjouis. Et quand l'Évangile est prêché dans Actes 15, verset 3, les gentils ont été convertis, les païens. Et cela a provoqué une grande joie.
On
est sur cette planète pour manifester la réalité de Dieu. Et ça, c'est une grande joie envers nous. Dans Psaume 111, verset 3, nous sommes un peuple qui est ici pour voir l'œuvre de Dieu au milieu d'une planète qui a deux puissances qui opèrent simultanément. L'une, c'est Dieu qui utilise cela pour se préparer un peuple unique. Autant la planète est unique, autant nous vivons ici d'une manière très unique, et même les scientifiques le disent. Les improbabilités et les possibilités pour que la vie telle qu'elle est sur la terre soit de cette façon sont incroyables. Et nous sommes le troupeau de son pâturage. Dieu nous a placés ici, sur cette terre. Et bien souvent, à cause de notre péché, on est troublé, on est abattu, et mortel, et coupable, et, embarrassés et craintifs. Mais nous sommes le peuple de Dieu. Et pourtant, dans notre croissance, parfois on ne comprend pas. Oh, mais Père, c'était tellement bon que tu l'aies fait comme ça. Je me réjouis de ce que tu l'aies caché des sages et des prudents. Mais le monde est tellement mauvais, beaucoup plus mauvais qu'on ne le réalise dans notre propre cœur, beaucoup plus mauvais qu'on ne le sait. Mais ensuite, on se rassemble ici un dimanche soir. Regardez, nous avons faim d'écouter et de nourrir et d'avoir une relation avec la vérité. Et on dit, Dieu, montre-moi, parce que si tu peux me montrer, il y aura une joie dans mon cœur, une victoire, une liberté. Et Jésus dit, vous connaîtrez ma vérité et continuez dans ma vérité, cela vous rendra libre. Et vous serez mes disciples. Alors, si vous êtes libre, vous serez vraiment libre. Si vous êtes libre, alors vraiment, vous êtes libre. Ça, c'est la liberté de Dieu. C'est incroyable. J'aimerais que vous tourniez dans Romains 6. On va lire ces versets avec un peu d'enthousiasme ce soir. J'aimerais vous encourager. Et je crois que l'Esprit de Dieu, l'œuvre de Dieu pendant cette saison dans notre corps, dans notre communion, elle est très réelle et très profonde. Je suis profondément enthousiaste envers ce que Dieu fait en nous. Si on pouvait juste marcher d'une manière droite, et tout est par sa grâce. Regardez ce qui nous est arrivé. Romains 5 dit qu'il y a deux hommes dans le monde, le premier Adam et le deuxième Adam. Le deuxième Adam nous a acheté toutes les grâces. Nous sommes justifiés. Son obéissance nous a été mis sur notre compte. Nous avons été déclarés aussi justes que le Fils de Dieu. Quoique nous étions désobéissants, nous avons été déclarés justes.
Verset 11, verset 5.
Donc, où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5, 20. Quelle phrase incroyable. Quand le péché abonde, la grâce surabonde. Qu'est-ce qu'on dit à nos frères et sœurs? Quand le péché abonde, la grâce surabonde. Et je ne sais pas ce que ça veut dire dans toute ton application, mais j'aime explorer dans mon cœur et croire que là où le péché abonde, la grâce surabonde. On ne se coupe pas de nos frères et sœurs parce que la grâce surabonde. L'Esprit de grâce, l'Esprit de Christ, l'Esprit de l'amour, le pardon, de puissance qui vient vers nous, qui nous et qui coule sur nous. Au verset 21,
even so my grace reign through righteousness.
Si le péché a régné par la mort, ainsi ma grâce régnera en Jésus-Christ. Que dirons-nous donc au chapitre 6, verset 1?
What shall we say then?
Que dirons-nous donc? C'est quelque chose de logique, c'est la logique grecque. Une raison linéaire que Paul utilise ici pour un impact spirituel. C'est un enseignant rhétorique. Il se met dans tes chaussures et il pose la question que tu te poses. Il dit, alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce qu'on continue dans le péché afin que la grâce abonde? Parce que c'est vrai que ça pourrait être une conclusion du verset précédent.
Si
la grâce abonde quand le péché abonde, alors je vais continuer dans le péché afin que la grâce surabonde envers moi. Est-ce que c'est ce qu'on veut dire?
We can say it,
on peut le dire,
but there's a counter opposite of the logic.
Mais il y a une opposition contre cette logique.
If the grace is so awesome,
si la grâce est si incroyable,
given to me when I sin,
et elle m'est donnée quand je pêche, encore plus, cette grâce sera capable de me délivrer de mes péchés et de me garder et de me guider dans la justice. Pourquoi est-ce que je continuerai dans le péché si la grâce qui m'est donnée en tant que pécheur m'est donnée pour que je vive dans l'abondance de la grâce par Jésus-Christ qui, lui, ne pêche jamais? Pourquoi vivre dans le premier Adam qui est mort au lieu de vivre dans le deuxième Adam qui ne pêche pas et qui ne peut plus jamais mourir et qui vit éternellement? Verset 2. Sa réponse est: loin de là. Comment nous donc qui sommes morts au péché pouvons encore vivre dans le péché? Regardez au verset 2. Et comment nous qui sommes morts au péché vivrons encore dans le péché? Nous sommes morts. Nous sommes morts au péché.
It says, how shall we live any longer therein if one?
Comment vivrons-nous encore dans le péché si une vérité, c'est si la vérité, c'est que je suis mort. Donc, comment est-ce que je pourrais continuer dans le péché? Je suis mort sur cette planète. Nous sommes dans ce plan si privilégié qu'on a la vie ici et qu'on nous soyons ici. Que Dieu nous a mis ici, qu'il a élevé son Fils, qu'il a envoyé et qu'il a délivré de la mort.
Because God did not make Psalm 111, can the dust praise you?
Dans Psalm 100, verset 11, il dit, est-ce que la poussière peut te louer? Est-ce que je peux te louer de la mort? Est-ce que Dieu est intéressé dans notre mort ou dans notre vie? Comment donc, au verset 2, comment donc nous qui sommes morts dans le péché vivrons encore dans le péché? N'est-ce pas vrai qu'il nous a délivrés? N'est-ce pas vrai que Jésus-Christ lui-même est notre vie? Au verset 3, ne savez-vous pas que tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont été baptisés dans sa mort? Savez-vous pas que vous êtes mort? Non, je ne savais pas que j'étais mort. Je ne suis pas mort. Et le Dieu dit, oui, tu es mort. Et tu dis, Jésus, est-ce que je suis mort? Oui, tu es mort. Mais je ne suis pas mort, regarde. Ma vie nature pécheresse s'est manifestée encore ce matin et aujourd'hui, pendant la journée et à la fin du jour. Et je dis, est-ce que je suis vraiment mort? Il dit, oui, tu es mort, et maintenant tu es vivant. Mais c'est Christ en toi, et maintenant tu es vivant et tu es libre. Et la grâce abonde envers toi. Tu te tiens dans Romains 5, 2. Et le péché n'a pas dominion sur toi, de d'autorité. Et peut-être tu dis, moi j'ai une... Il y a des choses dans ma vie que je n'arrive pas à me libérer.
Convoitise sexuelle
d'être l'alcool, la drogue.
And you were put
et pourtant, le premier Adam est mort et le deuxième est vivant. Tu étais baptisé dans sa mort et maintenant tu vis. Et ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ en toi. Et ça, c'est la grâce que nous avons. C'est ce que la grâce a fait pour nous.
Elle
nous a donné une vie nouvelle sur cette petite planète.
Et
un jour, Christ reviendra sur cette terre. Il établira son royaume sur la terre et les choses seront différentes. Il est dit dans les Écritures, dans Hébreux 1, il dit que l'univers sera comme ça, comme un manteau qui sera secoué et va être roulé et sera transformé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y aura plus ces convoitises de notre nature, il n'y aura plus les lois de la thermodynamique qui dit que tout décline et va vers de mal en pis. Comme le corps de Christ qui a été glorifié, ressuscité. C'est lui qui est les premiers fruits, nous sommes les seconds fruits. Nous aussi, nous serons ressuscités, nous quitterons notre corps et nous irons avec lui dans la résurrection, dans l'enlèvement.
Et dans l'enlèvement du corps,
tous les corps seront enlevés de ce siège, nous irons au ciel, et alors nous serons dans cet état-là. Et 1000 ans plus tard, à la fin du règne millénaire, l'univers entier sera brûlé dans le feu.
Ce
sera comme une vieille manière de dire le mot atome, les éléments seront éparpillés. Et c'est ce qui se passe dans une réaction nucléaire. Alors que ces particules sont éparpillées, il y a tellement d'énergie qui est relâchée, l'univers sera transformé et deviendra éternel. Est parfait.
And until that day comes,
et jusqu'à ce jour, qu'est-ce que nous faisons sur la terre? Nous glorifions notre Père Céleste en marchant par la foi. Et Jésus dit, merci Père, car tu n'as pas révélé ces choses aux prudents et aux sages, mais tu les as révélées à ces pécheurs ici. Ils le voient, nous aussi, en 2007, dans la ville de Baltimore. Chaque jour est un don. Et toutes les promesses y sont oui et amen. Et l'Esprit de Dieu dit, je te donne la grâce et je t'ai crucifié et maintenant tu vis. Et je te donne la victoire sur ta nature pécheresse. Verset 4. Donc, nous sommes enterrés dans ce baptême avec lui dans sa mort. Et comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, même nous aussi, il nous faut marcher dans, dans une nouveauté de vie. Nouveauté de vie. Nous marchons dans cette nouveauté de vie. C'est une nouveauté de vie. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui bouge dans mon cœur. Je sais que c'est une nouveauté de vie. Et cette chose est tout le temps là. C'est quelque chose. Quelque chose qui est là. C'est tellement subtil, très doux, et pourtant c'est réel. Et je sais que c'est la nouveauté de vie. C'est comme pour nous, on ne vieillit pas de la même façon. Dans Deutéronome, il est dit que le visage de Moïse n'a pas été touché. Et ses yeux ne vieillissaient pas. Son corps physique était affecté par la gloire de Dieu. Et quand une personne vit dans la nouveauté de vie, ça a un impact sur son corps.
Mais
même si mon corps est malade et qu'il périt, comme c'est le cas, le nouvel homme est renouvelé de jour en jour, de Corinthiens 4, 16. Et alors que nous ne regardons pas aux choses qui sont visibles, nous regardons aux choses qui ne sont pas visibles. Car les choses visibles, c'est la terre, sont temporelles. Les choses qui sont invisibles, comme Jésus-Christ, Dieu, les anges, les promesses, la vie éternelle, l'Esprit de Dieu qui demeure dans nos cœurs et qui nous dirige et qui nous parle et qui ouvre les Écritures. Et on n'a pas encore vu Abraham. Mais peut-être je lis sur Abraham et il est dit dans les Écritures, quand il est mort, il s'est couché près de son peuple. Et Jacob, quand il est mort, il a été couché au milieu de son peuple. Et c'est ce que Dieu nous dit ici, c'est que la mort, ce n'est pas la tombe, mais c'est d'aller vers le peuple. Que cette vie est une vie éternelle, où Dieu est notre Père. Nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Et le sang qui parle du ciel, qui dit que je t'ai racheté, j'ai payé ce prix pour ton péché. Et on le ressent. Et c'est incroyable. Nous sommes morts. Verset 4, il est dit que c'est une nouveauté de vie. Je suis tellement convaincu avec vous, le corps de Christ. Je suis tellement convaincu que c'est réel. Les scientifiques ne peuvent même pas le croire. Ils me disent, regardez-moi ça, l'eau, cette lune. Ils disent même qu'il y a certaines planètes qui sont autour de nous, qui interceptent les météorites, qu'il pourrait atterrir sur la terre. Les scientifiques disent, comment est-ce que c'est possible? Ils sont très impressionnés et ils ne mentionnent pas Dieu. Mais dans nos cœurs, on dit, comment est-ce que ce serait faisable si ce n'était pas le Dieu Tout-Puissant qui a un plan incroyable et qui nous invite dans ce plan. Et il nous révèle ce soir, et ce soir nous savons que dans nos corps mortels, nous avons une tendance à ne pas croire. Mais nous avons une nouveauté de vie qu'on ne peut pas renier. C'est un corps. Et maintenant, pour terminer, le corps de Christ, nous l'avons vu. Ce n'est pas un peuple, c'est le corps de Christ.
Ce n'est
pas une personnalité, c'est Christ. Vous et moi, nous sommes morts et maintenant nous vivons en Christ. Et c'est la réalité de notre Père Céleste qui est en nous. C'est incroyable. Le corps de Christ est incroyable.
On
n'est pas surpris que le diable est contraire dans le jardin avec Christ, dans le jardin de Gethsémané. Il est contraire à l'œuvre de Dieu sur la terre et où qu'il soit manifesté
dans
quelque forme qu'il soit manifesté, le diable est tellement contre cela et c'est sa cible à tout temps. Mais ce n'est pas un problème, c'est notre plaisir en fait. On dit, allez, vas-y, amène-le. C'est notre appel de vivre dans ce monde de ténèbres. C'est notre appel lorsque les autres périssent. C'est notre appel d'aimer le message et de le partager et de le préparer, d'être formé et de donner sa vie au ministère et de toucher les vies des gens. Car nos jours sont comptés. Psalm 90, nos jours sont comptés.
C'est un cubit comme ici.
De mon poing à mon coude, ça s'appelle un cubit. Et notre vie, c'est une coudée. Il dit notre vie n'est même pas comme une, aussi grande qu'une coudée, c'est une vapeur.
C'est un weaver's shuttle. C'est, you know, with a loom like this, and then you shoot the shuttle through, and that's what a life is. It's like one shot through, and it's over. We are redeeming the time. We are spirit-filled.
Nous rachetons le temps, nous sommes remplis de l'esprit, nous sommes morts, maintenant nous vivons. Ce n'est plus nous, c'est Christ en nous. Nous avons la puissance sur nos péchés, les choses auxquelles nous avons des addictions. Nous sommes dans les domaines dans lesquels nous avons des faiblesses, et pourtant ce n'est pas Dieu qui nous a mis là. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes placés là, c'est Dieu. Et le tombeau est vide, les anges chantent dans le ciel.
And they say, "Have you been there?" And they say, "Yeah."
Et je crois que les anges vont et viennent.
Elle
dit, "Oui, je suis tout le temps là. Je suis dans une mission.
What is God doing?" And we say, "We know a little bit."
Et qu'est-ce que Dieu fait? On dit, "Oh, on sait un tout petit peu ce qu'il fait." Mais on apprend de plus en plus. Notre foi n'est pas en vain. Notre ministère n'est pas en vain. En vain, nous avons un honneur de vivre dans la réalité de Dieu lui-même en tant qu'être humain dans ce monde ténébreux. Où les gens ont besoin de voir autre chose que de la chair et le sang. La mort, la peur, l'incrédulité. Merci Seigneur d'avoir ouvert nos yeux et de nous montrer, pas seulement dans les Écritures, mais dans nos cœurs, ce que c'est vraiment que nous avons.
Amen.